Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères.
Radio U, textuel, lire pour vivre mille vies.
J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses.
Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront.
Les tarés, toutes les exclus du grand marché à la
J'avais fait remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de quelqu'un.
Au chapeau de feutre.
Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme et tu es féministe depuis l'adolescence.
Accoudée au bastingage.
La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté.
Textuel, lire pour vivre mille vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en ce moment, c'est l'hiver. Les branches des arbres sont nues, la terre est sombre et nue. Les feuilles de l'automne sont réduites en poussière, l'air est froid, la pluie trop forte, le vent cinglant. Plus de fruits dans les arbres, partant, plus de joie. Et je me demande, mais pourquoi ? On me dit que c'est une question de rotation et d'inclinaison. Il paraît que la Terre est ronde et se déplace. Elle s'éloigne du Soleil qui ne la réchauffe plus. Mais je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt que Cérès est trop triste. Parce que depuis 3 mois, et pour encore 3 mois, elle est privée de sa fille Proserpine, retenue aux enfers dont elle est la reine. Mais pourquoi, me direz-vous ? Cérès est la déesse de l'agriculture, des moissons et de la fertilité. Elle a une fille, Proserpine. Proserpine est jeune et n'a nullement l'intention de se marier, aucune envie. Comme Atalante, comme Daphné, comme Diane, aucune envie de renoncer à la liberté. Mais Vénus veille au grain, elle ne supporte pas les célibataires. Alors elle demande à Cupidon de toucher Pluton d'une de ses flèches. Le petit obéit, Pluton voit Proserpine, Pluton aime Proserpine. Il l'emporte, l'épouse, la viole, c'est pareil. Mais Cérès, désespérée, réclame sa fille. Si elle ne la lui est pas rendue, elle fait grève et ce sera l'hiver permanent. Alors voilà où nous en sommes, dans un drame familial. Et cette question, est-ce que cette année encore, Proserpine aura le droit de sortir des enfers pour voir sa mère, qui alors accordera à la terre de se réchauffer et d'être féconde à nouveau ? Pour le savoir, je vous invite à écouter une lecture des Métamorphoses d'Ovide, traduite par Marie Connet. La première, Cérès, du soc courbé, a ouvert la terre. La première, elle a donné des fruits et de doux aliments aux terres. La première, elle a donné des lois. Tout est cadeau de Cérès. C'est elle qu'il faut chanter. Pourvu que je dise des poèmes dignes de la déesse, déesse digne de poèmes. Trinacris, grande île, est posée sur les membres du géant. De sa masse immense, elle écrase, sous elle, Typhoé, qui a osé espérer le royaume du ciel. De toute sa force, il lutte pour se relever, sa main droite sous le pélore en Ausonie, la gauche sous toi, Pachynos, ses jambes pressées par Lilibé, l'Etna alourdit sa tête. À la renverse, il crache du sable et féroce vomit de sa bouche une flamme, Typhoé. Souvent il se débat pour bouger les poids de terre, renverser de son corps les forteresses, les grandes montagnes. Alors la terre tremble et le roi des silencieux a peur que le sol s'ouvre, montre une large fente, que le jour y entre, effraie les ombres frissonnantes. Il craint ce désastre, le tyran du siège des ténèbres, et il sort, monté sur son char aux noirs chevaux, prudent, il fait le tour des fondations de la terre. Il vient de vérifier que le terrain ne glisse pas et a quitté ses peurs. Vénus, de la montagne d'Eryx, le voit qui erre ici et là. Elle embrasse son fils oiseau. « Mes armes, mes mains, mon fils, ma puissance, » dit-elle, « prends ces traits avec lesquels tu bats tout le monde, Cupidon. Dans la poitrine du dieu, plonge tes flèches vives. Le sort lui a donné ce qu'il a de pire dans le triple royaume. Toi, les dieux d'en haut, Jupiter lui-même, les divinités de l'eau, tu les vains, tu les domptes, et celui qui dirige les divinités de l'eau. Pourquoi pas le Tartare ? Pourquoi ne pas révéler le pouvoir de ta mère et le tien ? Il s'agit de la troisième partie du monde. Même dans le ciel, quelle est ma patience ? On nous méprise et avec moi diminue les forces d'amour. Pallas, tu ne vois pas ? Et la lanceuse de flèches, Diane ? Comme elle s'éloigne de moi, la fille de Cérès aussi restera vierge si nous le supportons. C'est ce qu'elle espère. Toi, pour notre règne commun, si cela t'est cher, unis la déesse à son oncle, dit Vénus. Cupidon ouvre le carquois. Pour plaire à sa mère, entre mille flèches, il en choisit une. Aucune n'est plus vive, aucune moins incertaine, celle qui obéit le mieux à l'arc. Contre son genou, il courbe l'arc flexible. En plein cœur, il frappe. Du roseau crochu, Pluton. Non loin des remparts d'Héna, il y a un lac de hautes eaux, nommé Pergus. Caïstros n'entend pas plus de chants de cygnes que lui dans ses flots glissants. Une forêt couronne les eaux, enceint un côté, de ses frondaisons, comme d'un voile, repoussent les feux de Phébus. Les branches donnent la fraîcheur. Le sol humide des fleurs de tyr, le printemps est infini. C'est là, dans ce bois, que Proserpine joue. Elle cueille des violettes et des lys blancs. Avec le plaisir d'une enfant, emplit les paniers et sa robe, s'amuse à ramasser plus que les autres. Il la voit, il l'aime, il la prend, Pluton. Tant l'amour est pressé. La déesse, terrifiée, bouche triste, appelle sa mère et ses amis, surtout sa mère. Elle crie. Elle a déchiré le bord de sa robe. Les fleurs cueillies s'échappent de la tunique qui tombe. Une si grande simplicité, elle est si jeune, la perte lui provoque un chagrin d'enfant. Le voleur lance son char, appelle les chevaux par leur nom, les excite, secoue les crinières et les rênes teintent de rouille sombre. Il va à travers les lacs profonds, les marais des paliques qui sentent le soufre et bouillonnent dans la terre fendue. Il va là où les Bacchiades, nés à Corinthe aux deux mers, ont posé leurs remparts entre des ports inégaux. Il y a un endroit entre Sianné et Arétus de Pise qui serre et ferme entre ses bras étroits une plaine d'eau. Ici était Sianné, on a donné son nom au lac, la plus célèbre des nymphes de la Sicile. Du fond du gouffre, elle s'est dressée jusqu'au ventre et a reconnu la déesse. « Vous n'irez pas plus loin, dit-elle. Tu ne peux pas être le gendre de Cérès sans son accord. Il faut demander, pas prendre. » Si je peux comparer de petites choses aux grandes, moi aussi Anapis m'a aimé. Il m'a supplié, pas terrorisé comme tu as fait, et je l'ai épousé. Elle dit, des deux côtés elle tend les bras et empêche. Le fils de Saturne ne retient plus sa colère. Il excite ses terribles chevaux et dans les profondeurs du gouffre, il brandit son sceptre royal d'un bras fort et le plante. La terre frappée fraye une voie vers le Tartare et reçoit au milieu du cratère le char qui dégringole. Sianné, triste de l'enlèvement de la déesse, méprisée dans son droit et le droit de sa source, reçoit dans le cœur une inguérissable blessure, muette se consume de larmes. Pendant ce temps, la fille, par sa mère épouvantée, est cherchée en vain sur toute terre, sous toute mer. Aurore, cheveux mouillés, quand elle se lève, ne la voit pas, traînée par là, ni Hespérus. La mère, de ses deux mains, allume à l'Etna le pin qui prend feu et jusqu'aux ténèbres glaciales, sans repos, le porte. Quand le jour maternel émousse les étoiles, du coucher du soleil jusqu'au lever, la mère cherche la fille. Morte de fatigue, elle a soif. Aucune source ne rafraîchit sa bouche. Lorsqu'elle aperçoit, couverte de paille, par hasard, une baraque, elle frappe à la petite porte. En sort une vieille femme. Elle voit la déesse et lui donne à sa demande un doux breuvage saupoudré d'orge grillée. La déesse boit. Un enfant de dur visage, pas gêné, s'arrête devant elle, rit, l'appelle gloutonne. Blessée, la déesse qui n'a pas tout bu, sur le garçon qui parle encore, jette l'orge mêlée au breuvage. Le visage se tache et où il porte des bras, il porte des jambes. Ajoute une queue à ses membres changés. De format réduit, sans grand pouvoir de nuire, il est tout serré, de taille plus petite qu'un petit lézard. La vieille femme le regarde, pleure, veut toucher le miracle. Il la fuit, cherche les ténèbres, prend un nom qui va avec sa couleur, corps étoilé de gouttes variées. Par quelle terre la déesse erre-t-elle? Par quelle mer? Il serait trop long de le dire. Elle cherche, le monde manque. Elle retourne en Sicile, elle court partout, vient au bord de Siané. Si elle n'avait pas été changée, celle-ci lui raconterait tout. Elle veut, mais la bouche, mais la langue ne peuvent dire. Elle n'a rien pour parler. Elle donne des signes évidents, des indices à la mer. En ce lieu, par hasard, dans le gouffre sacré, la ceinture de Perséphone est tombée. Elle la montre dans les eaux. La déesse la reconnaît et comme si enfin elle comprenait l'enlèvement, elle arrache ses cheveux en désordre, frappe et refrappe des paumes sa poitrine. Elle ne sait pas encore où est sa fille, elle insulte toute terre. Les appels ingrates, indignes des fruits qu'elle offre, tout d'abord Trinacria, où elle a trouvé des traces de sa terre. D'une main cruelle, elle brise les charrues qui remuent la glèbe. Furieuse, donne la mort aux paysans et aux bœufs de labour. S'arrange pour que les champs ne rendent rien et pour gâter les récoltes. Cette terre est abondante. Dans le grand monde, on le sait, mais cela devient faux. Les blés meurent en herbe. Trop de soleil, trop de pluie les abîme. Les étoiles et les vents les ravagent. Les oiseaux avides picorent les graines semées. L'ivraie, le chardon épuise les moissons de froment comme la mauvaise herbe. Alors l'amante de l'Alphée porte sa tête hors des eaux de l'Élide, secoue ses cheveux mouillés du front aux oreilles et dit « Mère d'une fille cherchée par le monde entier, mère des fruits, arrête ta peine immense. Ne t'attire pas, violente, la colère d'une terre fidèle. » La terre n'a pas mérité ça, ouverte malgré elle pour l'enlèvement. Je ne te supplie pas pour ma patrie, je suis ici en invité. Pise est ma patrie, je suis née dans l'Élide, je vis étrangère en Sicile, mais cette terre m'est plus chère que toute autre. Maintenant, Arétuse, j'ai ici mon foyer, j'y ai ma demeure. Toi, très douce, préserve-la. Pourquoi m'a-t-on changé de lieu? M'a-t-on fait traverser de si grandes eaux? Pourquoi m'a-t-on porté en Ortygie? L'heure viendra de te le dire, la bonne heure, quand tu seras libre de soucis et que tu auras meilleure mine. La terre m'offre une voie praticable, je m'emporte dans ses grottes profondes, je soulève la tête, je vois des étoiles inattendues. J'ai donc glissé sous les terres, dans le gouffre du Styx, et je l'ai vue, de mes yeux, là-bas, ta Proserpine. Elle est bien triste, son visage n'est pas sans terreur. Mais elle est reine, mais elle est la plus grande du monde aveugle, mais elle est femme puissante, du tyran des enfers. La mer stupéfiée, comme une roche, longtemps ressemble à une foudroyée. Frappée de lourdes douleurs et lourdes de folie, elle monte sur son char dans les airs du ciel. Là, des nuages plein le visage, elle se dresse devant Jupiter, cheveux défaits, révoltée. « Pour moi, je viens suppliante devant toi, Jupiter, dit-elle. Pour mon sang, pour le tien. Si la mère ne peut rien, la fille peut émouvoir le père. » Je t'en prie, prends bon soin d'elle, même si elle est née de moi. J'ai cherché longtemps ma fille et je l'ai trouvée, enfin, si on peut dire trouver quand on perd, ou si on peut dire trouver quand on sait où elle est. L'enlèvement, je peux le supporter, si on me la rend. Ce n'est pas d'un mari brigand dont ta fille est digne. Elle n'est pas que ma fille. Jupiter répond. Elle est notre témoin, notre devoir commun, à toi et moi. Mais si tu veux bien donner de vrais noms aux choses, ce qui s'est passé n'est pas un outrage, c'est de l'amour. Ce gendre n'est pas une honte pour nous, il suffit, déesse, que tu l'acceptes. Si même il n'avait que ça, être frère de Jupiter, il n'a pas que ça. Il m'a cédé la place, c'est un hasard. Si ton désir est grand de les séparer tous les deux, Proserpine reviendra au ciel. Mais retiens ceci. Seulement si là-bas, elle n'a pris aucun aliment dans sa bouche. Une précaution des parcs. Il dit. Pour Cérès, c'est sûr, il faut faire revenir sa fille. Les destins ne le permettent pas. La jeune fille a rompu le jeûne. Alors qu'elle se promenait dans les beaux jardins, elle a cueilli à un arbre incliné un fruit pourpre et de l'écorce pâle, elle a sorti 7 grains. Elle les a pressés dans sa bouche. De tous, seul Ascaphale l'a vu. Qu'autrefois, dit-on, Orphné, une des plus connues des nymphes de l'Averne, a enfanté avec l'Achéron sous les forêts noires. Il l'a vu. Le cruel la dénonce, empêche le retour. La reine de l'Érèbe gémit. Ce témoin, elle le fait oiseau de mauvais augure. Sa tête, arrosée d'eau du Phlégéton, elle la change en bec. Elle lui fait des plumes et de grands yeux. Il est ôté à lui-même, drapé dans des ailes fauves. Il grossit de tête, se fléchit sous de longs ongles. À peine s'il bouge les ailes nées à ses bras immobiles, il devient un vilain oiseau, annonciateur de chagrin, hibou paresseux, présage sinistre pour les mortels. Il a dénoncé et on peut penser que sa langue a causé sa peine. Entre son frère et sa sœur triste, Jupiter divise l'année à égalité. Maintenant, la déesse, divinité des deux règnes, est avec sa mère autant de mois qu'avec son époux. Se transforme aussitôt l'esprit et le visage de la mère. Et s'il pouvait paraître triste à Pluton, le front de la déesse est joyeux, comme un soleil couvert d'abord de pluvieux nuages, qui des nuages sort vainqueur. Je vous ai lu un extrait des Métamorphoses d'Ovide, traduite par Marie Connet et publiée en 2017 aux éditions de L'Ogre.
Textuel, lire pour vivre 1000 vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.